Tout de suite, j'accueille le docteur Alain Vadeboncœur. Alain Vadeboncœur, bonjour.
Oui, bonjour. Je pensais qu'on allait parler de chants d'oiseaux ensemble.
Ah, ça, ben c'est parce que Thérèse dit « Je veux garder ma porte fermée ». Ben non, j'ai dit « Ouvrez la porte qu'on entende vos oiseaux ». Exactement.
Ça. Non, mais je vous raconte ça. Moi, j'ai mis l'application Merlin sur mon cellulaire.
Oui.
Et je connais pas tellement les chants d'oiseaux, mais je me suis dit « Tiens, on va s'intéresser à ça ». Et là, j'ai fait jouer la mésange à tête noire.
Ah.
Et au bout de 2 minutes, il y a 2 mésanges qui viennent au-dessus de moi et qui commencent à répondre à mon chant.
Non, je crois pas ça.
Absolument. J'étais fasciné. J'ai même la photo, je vous l'enverrai.
J'ai mon voyage.
J'ai été très impressionné. Donc,
Thérèse, avez-vous cette application, Thérèse?
Oui, j'ai une application semblable et souvent, je vais appeler les oiseaux comme ça.
Ben, tu
ça va m'arriver si je veux faire de la photo puis qu'ils sont pas là. C'est pas leur heure, mais on fait ça, c'est vrai. Docteur Vadeboncœur a raison, ils répondent.
Alors, Docteur Vadeboncœur, c'est quoi le nom de cette application?
C'est Merlin. Je pense que c'est une application publique. On peut ajouter des chants d'oiseaux, si je comprends bien. Et
oui.
Ça nous géolocalise. Donc, moi, je suis à Longueuil. Et donc, ça va mettre les oiseaux qui sont un peu dans l'environnement ici, à cette période ici de l'année. Et donc, voilà, j'ai été émerveillé par ça, puis ça m'a changé complètement les idées par rapport au COVID.
Oui, certain. Mais là, Dr. Vadeboncœur, vous avez peut-être entendu pendant nos informations le bon Dr. Arruda, qui est enthousiaste mais inquiet en même temps. Est-ce que vous, en tant que médecin, Alain Vadeboncœur, vous allez un peu dans ce sens? C'est-à-dire que vous comprenez un certain enthousiasme qui règne, pour ne pas dire une certaine frénésie, mais en même temps, est-ce que vous avez une certaine inquiétude?
Alors, mon enthousiasme, je le réserverai au chant d'oiseaux pour l'instant. Et ça m'a beaucoup enthousiasmé, mais effectivement, ben une inquiétude, c'est-à-dire que il y a de l'inconnu là devant nous à court terme puis et surtout à moyen puis long terme. À court terme, ben quel va être l'effet des mesures de déconfinement? J'aimerais bien voir des prédictions là-dessus, mais je suis pas capable de me faire une tête sur le sujet. Et donc, bon, on va le savoir dans 2-3 semaines, hein, ça, assez rapidement, 3-4 semaines. On va espérer que ça n'aura pas de conséquences trop importantes. Là, je parle de Montréal surtout. Je pense qu'en région, c'est quand même ça risque de tenir assez solide. Puis évidemment, l'inquiétude, ben c'est parce que ce n'est que la première page de cette histoire-là. Et donc, ça va continuer. Et donc, c'est toute la question de la préparation à la suite, à l'automne, là, qui ben, je dirais pas que ça m'inquiète, mais je pense qu'on a un gros défi quand même devant nous pour comprendre ce qui s'est passé, puis être mieux équipé pour faire face à l'automne. Là.
Vous avez vu d'ailleurs, cette semaine, le passage du Dr Bockmann, qui est le président de l'Association médicale du Canada, devant ce comité sénatorial. Il a dit craindre le pire pour une chose, c'est que il ne veut pas que les travailleurs de la santé, ça inclut les médecins, les infirmières, les préposés et aux bénéficiaires doivent faire face à une nouvelle vague et toujours avec les mêmes inquiétudes de pénurie, de matériel et puis la fatigue qui va s'ajouter également à ces gens si on doit repasser tout ça à l'automne.
Ouais, le film risque de repasser à l'automne. Hein. Faut pas se cacher de ça parce que il y a pas beaucoup de pandémies où il y a pas eu au moins quelques vagues. Là. La question du matériel, moi je l'ai évoqué assez tôt, puis je le répète à peu près sans arrêt. Il y a clairement eu des manques en fait. Enfin, on a été pris de court, puis il y avait pas de fournisseurs peut-être pendant un certain temps. Mais le fait de devoir travailler, puis ça a pas été facile. Vous l'avez mentionné là pendant des semaines et dans certains milieux avec des protections qui étaient soit rationnées ou souvent déficientes, en tout cas dans les CHSLD, ça a été non seulement un élément de stress majeur, un élément de santé, parce qu'il y a eu énormément de gens, je pense 5500 là, dans le réseau, mais aussi de contamination. On a vraiment l'impression que le fait qu'il y a eu des employés des CHSLD, par exemple, contaminés, c'est ça qui a propagé l'infection à l'intérieur. Donc ça, il va falloir vraiment comprendre ça d'une part, et d'autre part, il va falloir s'équiper. Il y a des entreprises qui commencent à produire du matériel de protection ici, c'est formidable. Chez nous, par exemple, je veux pas faire de publicité, mais Canuck a produit donc des blouses qu'on met maintenant, là, qui sont lavables.
Ouais.
Et donc, on est capable de se retourner, mais il faut le faire. On n'aura pas le choix. La suite va venir, puis il va falloir être bien
équipé. Mais docteur Vadeboncœur, est-ce qu'on doit pas quand même se dire que si jamais ça revient, nous avons compris tellement de choses. On n'a pas fait ça pour rien ces 10 semaines-là. Les professionnels de la santé, les scientifiques, mais nous tous, les citoyens, on en sait un peu plus long maintenant. On sait que tous les pays qui ont agi rapidement, je ne cesse de dire, au risque d'ennuyer tout le monde, que la Nouvelle-Zélande a agi dès la fin de février. Moi, j'ai l'impression que s'il y avait une seconde vague qui arrivait à l'automne ou à l'hiver, on fermerait pas mal plus vite qu'on l'a fait au mois de mars.
Ben moi, je pense que je vous suis entièrement là-dessus. On a appris énormément sur le virus, évidemment. La recherche a été faite très rapidement, mais on a appris aussi sur nous-mêmes. Et bon, je parle de la population tout à fait, mais également le réseau de la santé. Je suis en train de compiler un peu toutes les avancées en fait qui ont été faites durant cette période-là. Et je me rends compte, malgré certains problèmes, certaines erreurs, là, en CHSLD par exemple, que dans le réseau de la santé, ça a bougé très rapidement pour faire face à ça, s'adapter, développer des nouvelles façons de faire. La télémédecine, ça n'existait pratiquement pas avant la pandémie, puis maintenant, on peut contacter son médecin par vidéoconférence ou par téléphone et avoir un diagnostic. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le réseau qui sont assez impressionnantes, la mobilisation qui vont nous servir. Et peut-être même que nos erreurs, si on pense au CHSLD, vont nous servir à être mieux préparés pour la suite des choses. Moi, je suis plutôt positif de ce côté-là. Je pense qu'on a acquis des connaissances fondamentales qu'on va pouvoir utiliser là, pour faire face à la suite. Et tant mieux pour ça. Là.
Alors, Dr. Vadeboncœur, je veux vous amener sur un point très précis. Ces retrouvailles, depuis hier, à raison de 10 personnes et moins, c'était un peu flou là, à savoir que 3 niveaux de famille pouvaient se retrouver et toujours garder la distanciation de 2 mètres. Cependant, ma question, et en même temps, c'est une sorte de préoccupation. Mettons que les gens se réunissent ce soir, 9 personnes, 10 personnes maximum, on garde la distanciation et tout ça. Il n'y a rien qui me garantit qu'il n'y a pas quelqu'un, un membre de ma famille, qui est asymptomatique, qui ne sera pas assis à la table à pique-nique ce soir. Est-ce que c'est pas ça qui est inquiétant de dire on favorise un certain rassemblement contrôlé, mais sans savoir s'il y a des personnes qui peuvent transmettre le virus?
Ben, c'est presque inévitable que ça va arriver, en fait, parce que il va y avoir des personnes qui vont transmettre le virus, qui sont pas symptomatiques. Et donc, oui, ça va arriver. Je dirais que ça fait partie du risque calculé. Quelle est l'ampleur de ce risque-là? Je peux pas vous le dire. Mais ce que ça souligne, par exemple, c'est que il faut quand même mentionner que la distanciation à l'intérieur de ces réunions-là doit se maintenir. Hein? Mon fils est venu hier, il habite pas avec nous, donc il est resté à distance de 2-3 mètres là, parce que bon, mais lui il a recommencé à travailler, il travaille dans le milieu de la construction, et donc cette distance-là à l'intérieur des réunions familiales ou avec des amis, il faut la maintenir. Bon, on habite avec les gens dans nos maisons, ça c'est correct, mais quand on rencontre des gens à l'extérieur, que ce soit ces rencontres-là, il faut maintenir ça, parce que oui, il va y en avoir des transmissions comme ça.
Ouais.
La question, c'est à quel niveau, puis à quel degré, puis c'est quoi le poids de ça? C'est ça l'inconnu là, qui peut inquiéter, moi qui m'inquiète un peu, parce qu'on ne sait pas quel est l'impact réel. On va le savoir quand, malheureusement, il va avoir eu lieu dans 2-3 semaines.
Mais c'est ce qu'on veut pas.
On veut pas être sûr. Ouais.
Mais excusez, Dr. Vadeboncœur, ce qu'on veut pas, c'est que ça reparte à raison de transmission à 1000 cas par jour, là.
Ben c'est sûr. Donc, en fait, c'est pour ça que je pense qu'il faut marteler ce message-là. Oui, bon, s'il y a des rencontres comme ça, je pense que les gens en voulaient vraiment. Il faut, à l'intérieur de ça, appliquer les règles. Si les gens disent, bon, ben maintenant qu'on peut se rencontrer entre familles ou entre voisins, on peut le faire, puis dans le fond, les règles ne tiennent plus, mais il va arriver ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la transmission. Puis ça, c'est inévitable. Le virus circule. Si le virus était disparu, ça serait pas la même chose, mais le virus circule. Il faut maintenir ces règles-là à l'intérieur de ces rencontres-là qui doivent être donc bien encadrées, bien mesurées, bien réfléchies pour permettre ça. Sinon, ben il va arriver ce que vous dites, il va arriver de la transmission.
Une chose qui est difficile à comprendre, c'est qu'on disait, si vous vous rassemblez, faites-le à l'extérieur, pas de rassemblement à l'intérieur de votre maison ou en fait de votre domicile, mais on permet aux gens d'utiliser la salle de bain. Alors là, vous dites, la personne utilise la salle de bain, elle ne reste pas, mettons, dans le passage ou dans la cuisine et retourne à l'extérieur, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une personne qui est allée dans un endroit très clos qui est la salle de bain.
Oui, ben en fait, la salubrité d'abord, donc tout nettoyer est extrêmement important dans ce contexte-là. Mais on sait qu'aussi, il y a la durée du contact hein, qui joue. Dans les hôpitaux, là, on parle toujours d'un contact de, mettons, 10 ou 15 minutes ou plus là avec un patient qui est vraiment significatif. Donc, un simple passage dans une pièce là qui dure quelques secondes, disons, et si on retourne à l'extérieur, où là, la ventilation, évidemment, elle est à point et donc ça fonctionne bien, ben probablement que le risque n'est pas très élevé. Mais encore là, c'est tous des petits risques qui s'accumulent. Hein. Il y a quand même beaucoup de déconfinement. Il y a quand même plusieurs mesures de déconfinement qui ont été décidées. Chacune, j'imagine, va avoir un certain impact. J'aimerais bien voir les modèles sur lesquels on peut dire que, par exemple, les commerces apportent sur la rue le lundi, ça va, quel poids ça a. Mais bon, ça reste un pari, le premier ministre l'a dit. J'espère que le pari, on va le gagner dans ce contexte-là.
Bien, on l'espère tous. Ouais. Question importante également. Est-ce que je devrais recevoir, si c'est moi qui reçois, ou peu importe, aller à un rassemblement de famille ce soir, en sachant que quelqu'un a déjà eu la COVID-19?
Bien, c'est-à-dire que vous voulez dire dans ce groupe-là?
Oui, dans ce groupe-là. En sachant, mettons que mon beau-frère dit « Ah, j'ai eu la COVID-19, il y en a tel symptôme, j'ai fait ni plus ni moins ma quarantaine de 14 jours, est-ce que je suis à risque de fréquenter une personne qui, dans mon groupe ce soir, a déjà eu la COVID-19? »
Bien, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir eu d'abord la quarantaine et le OK, finalement, des autorités pour dire qu'on va bien, qu'on est guéri. D'autre part, on n'est pas obligé de faire des rencontres avec les gens qui ont eu la COVID. Mais ce qu'on pense quand même, puis les évidences pointent vers ça, c'est que l'immunité existe. Il y avait eu des hypothèses que l'immunité ne se ferait pas ou qu'il y a des gens qui se réinfecteraient, puis peu à peu, ces hypothèses-là, sans dire non, c'est pas vraiment de la réinfection. À date, ça semble tenir le coup. Donc, les gens qui ont eu la maladie, mettons, il y a deux mois, et qui sont guéris, qui n'ont plus aucun symptôme, qui ont eu le OK de la santé publique, probablement que non seulement ils sont plus contagieux, parce que on le vit à l'hôpital, là, les gens, ils l'attrapent puis ils reviennent après un certain temps de réveiller, mais en fait, ils ne peuvent plus transmettre et donc qui sont probablement immunisés aussi. Donc, je pense pas que c'est une contre-indication, parce que sinon, il y en a qui vont se sentir mis de côté pendant longtemps.
Est-ce qu'on doit être prudent dans la manipulation des aliments? Exemple, un barbecue ce soir, est-ce qu'il y a des consignes précises quant à la manipulation des aliments, mais aussi des assiettes, les ustensiles et tout ça?
Oui, les aliments, mais il ne faut pas se brûler avec les aliments d'abord. On a peut-être perdu l'habitude de faire des barbecues.
et bien faire cuire le steak haché.
Oui, il ne faut pas attraper d'autres infections. Mais en fait, on sait que les surfaces, il y a eu des études tout à fait récentes ces derniers jours qui montraient que peut-être que c'est plus difficile qu'on le pense de transmettre le virus avec des surfaces contaminées. Mais moi, je prendrais toutes les précautions requises de ce côté-là parce que franchement, ça vaut pas la peine de tester ces données-là qui sont toutes récentes là. Et donc, oui, il faut prendre nos précautions, il faut nettoyer les choses, puis voilà, il faut le faire un peu comme on le fait à l'hôpital, en regardant l'utilisation de chaque plat, qu'est-ce qui s'est passé, s'assurer que ça passe pas de main en main comme ça. Donc, ça demande toute une gymnastique. Ça demande, tu sais, déjà un barbecue, c'est pas facile à organiser. Là, mais là, ça va demander, je pense, un gestionnaire de la mobilité au sein du barbecue, là, si on en fait.
Ben, on se reparle dans 3 semaines, Alain Vadeboncœur, à moins qu'il y ait une nouvelle éclosion, et on verra où nous en serons dans cette familiarité qu'on retrouve, notamment ce week-end. Et je vous laisse retourner à vos oiseaux, docteur.
Je sens que ça va me passionner. Vraiment, ce qui s'est passé hier, ça a été assez surprenant et étonnant. Ma blonde ne croyait pas.
Et vous avez attiré quel oiseau, rapidement? Une mésange?
La mésange à tête noire.
Un mésange à tête noire.
Écoute, non seulement attiré, mais on discutait. J'avais une discussion avec ces oiseaux.
C'est extraordinaire.
Oui, ça m'a vraiment étonné et je pense que ça va devenir une partie importante de mon été.
Merci, docteur Vadeboncœur.
Grand
plaisir. Thérèse Harry, parce qu'elle parle aux oiseaux.
Ah non, c'est vraiment j'adore ça.
Non, mais vous êtes comme Saint-François d'Assise.
Un peu, peut-être.
Vous savez, celui qui... Je l'ai vu, mesdames, messieurs, de mes yeux vus. Je suis allé chez Thérèse. Et à un moment donné, Thérèse étend sa main. Je vous jure, j'ai même une photo. Je l'ai envoyée à tout le monde ici. Oui, elle étend sa main. Et les oiseaux viennent se poser dans sa main. Vous m'avez fait penser...
Ils viennent jaser en direct.
À Saint-François d'Assise.
Mais je trouve ça intéressant ce que le docteur Vadeboncœur dit, parce que c'est très zen comme exercice.
Ben certain, ça fait du bien.
Ah oui, tout à fait, ça fait du bien.